va rester très simplement, et je le crois, marqué dans vos cœurs. C'est la parole de Dieu qui est vivante, donc nous permettant de voir. Imaginez-vous perdu en montagne. Vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone. Voilà, vous ne savez plus quoi faire. Et puis, vous finissez par sombrer d'espoir. Vous dites, ça va être terminé. Puis vous avancez, tant bien que mal. Et puis, à un moment donné, vous arrivez. Et puis, vous commencez à voir, à percevoir un refuge. Ouf, hein ? Voilà, avec une chaleur pareille, ou alors avec du vent, etc. Bref, oui, nous avons besoin de refuge. Et dans la vie, nous avons des éléments de valeur. Il y a des éléments de valeur qui ont été les nôtres, qui s'avèrent avoir été des éléments fiables, vraiment des éléments de base, des éléments de repère au niveau famille, au niveau société, au niveau même travail, au niveau de l'amitié, au niveau de toutes sortes de personnes. Et puis il s'avère que avec le temps, avec les éléments de la vie qui fait que ça s'imbrique bien et des fois ça s'imbrique mal, et il est vrai que assez rapidement on peut avoir des éléments de test où ça tient, ça va, c'est fiable, c'est sûr, où il y a des éléments, c'est pas toujours vérifiable, et il y a des éléments comme ça qui peuvent être bousculés. Il y a des éléments dans nos vies, et vous savez que quand on est jeune, on apprend, on voit, on a des éléments de repère, des éléments de base, et puis au fur et à mesure, on a des éléments où on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin d'aller un petit peu plus loin. Alors, on va lire ce verset qui est un verset de base, un verset clé, qui nous rappelle trois choses importantes. Et puis vous en conviendrez avec moi, enfin j'espère, sinon vous me dites si vous êtes venu avec des tomates. Voilà. Mais 1 Corinthiens chapitre 13, vous savez ce que c'est ce chapitre ? C'est le chapitre de l'amour, la perfection de l'amour, la perfection qui malheureusement n'est pas de ce monde, qui n'est pas forcément toujours chez nous. Au beau fixe, au beau rendez-vous, il y a toujours peut-être des failles, des éléments qui ne sont pas forcément des éléments qu'on aurait souhaité. Mais cependant, c'est l'amour parfait, c'est la définition de l'amour, et ça commence aussi par les dons spirituels. On s'aperçoit qu'il n'y en a qu'un seul sur terre qui a été capable de révéler un amour sans faille, c'est la personne de Jésus, vous l'avez compris, et c'est si bon de le reconnaître. Alors il termine ce chapitre mettant l'accent pour nous sur la nécessité de vivre les dons spirituels, de vivre l'amour, de vivre les choses, et il le dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses c'est l'amour, la charité, Donc nous savons que par là, l'homme de Dieu met l'accent sur ce qui est vraiment important. Nous pouvons reconnaître ensemble, les grands points importants de la vie chrétienne ne sont pas la poursuite de miracles, de signes, encore moins de puissance, ni les dons de l'esprit, même si ces derniers sont importants, bien entendu, de la vie chrétienne. Nous reconnaissons par là que c'est accordé, c'est donné pour un temps particulier, selon des besoins, la manifestation de Dieu par son esprit, qu'on vient à pallier dans des moments de détresse, dans des besoins, dans un besoin de voir la grandeur de Dieu, mais en aucun cas, c'est le but de la vie chrétienne, bien que ces choses, comme je dis, sont importantes. 1 Corinthiens 22 dit « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Au contraire, notre énergie doit être focalisée sur l'importance de la foi, l'importance de l'espérance et l'importance de l'amour. » Alléluia. Amen. Alors oui, c'est vrai que si dans notre génération, notre focus doit être bien réglé sur ces réalités-là, qui sont des réalités du temps présent, il le dit, maintenant, ces choses demeurent. Donc c'est des éléments de repères fiables et vérifiables, oui, pour nous permettre de voir que Dieu nous a donné ce qui convient, alléluia, et nous a donné ce qui convient pour dire, oui, c'est des éléments peut-être dans notre boussole, qui sont des éléments qui vont nous aiguiller, qui vont faire avec notre lot de facilités et d'inconvénients, mais nous avons des textes qui nous en mentionnent. Hein. C'est j'aimais retrouver en fait la foi, l'espérance et l'amour. C'est pas la seule fois où ce trio a été mentionné. On va relire plusieurs textes. Vous allez comprendre qu'en fait, c'était adressé à d'autres épîtres, d'autres chrétiens, d'autres circonstances, d'autres contextes. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il nous est dit « Nous gardons le souvenir de votre foi active et de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Avez-vous remarqué les trois composantes qui se retrouvent là? Nous les voyons, une foi non pas passive, mais une foi qui est dans l'activité, une foi pour honorer, servir, pour travailler, et travailler avec notre foi, de pouvoir vivre. Oui, cet amour qui prend le temps de jauger. Ce n'est pas un amour indifférent, ce n'est pas un amour de résonance et de mots qui se fait entendre, mais c'est votre persévérante espérance. Alors, Galates chapitre 5, verset 5, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen. » Oui, nous avons là des éléments où on attend après. On attend après le secours de Dieu, la justice, l'intervention de Dieu. Oui, c'est lui qui fait justice. C'est lui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Nous ne pouvons pas nous-mêmes être assoiffés de vengeance ou de nous disposer à faire des choses qui risqueraient d'être mal faites parce que nos dispositions ne nous auraient pas emmenés à ce qu'il y a de meilleur. Alors d'être animé de cet amour-là et l'espérance de l'intervention de Dieu et une foi qui est agissante aussi par amour. On avait vu une foi active et une foi agissante, et aussi par l'engagement de l'amour de Christ. C'est vraiment inspirant quand nous avons des personnes qui sont le reflet de Christ. C'est inspirant, c'est vrai. C'est inspirant. Je me rappelle d'un collègue, lui, il n'avait pas l'amour de Christ, et puis il était assez caractériel. Ça arrive, ça hein? Et c'était chef de service. On était à la réception, on déballait les colis. Et puis quand ça tombait. Et puis c'était électrique, en fait. Et on avait l'impression d'être électrifié à chaque fois. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Et on a besoin de cet amour qui vienne nous aider dans nos défauts. Parce qu'on ne peut pas prétendre, voilà, y a-t-il quelqu'un qui est parfait en amour, qui lève la main? On est bien d'accord? C'est vrai, hein? Et donc, il vient nous aider. Et là aussi, aux Galates, et si vous prenez un petit peu le contexte des épîtres et de leur vécu, leur cheminement, là encore, c'est des composantes qu'on voit, comme Paul les a mentionnées aux Corinthiens. Eux qui avaient reçu de Dieu, qui avaient reçu tous les dons, qui vivaient de belles choses, les éléments de repère. Maintenant, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Maintenant, peut-être nécessaire d'avoir de bons repères. Maintenant, il est peut-être nécessaire de dire, Seigneur, je prends des éléments de repère que toi, tu donnes. Pas les éléments qu'on peut s'imposer ou notre bon caractère, ce qui fait force de loi chez nous, dans notre maison, mais encore on compte sur le Seigneur et sur son intervention. Regardez ce qu'il dira aussi aux Colossiens. J'ai noté au chapitre 1er, verset 4, « Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée, dans les cieux. » Là encore, vous avez certainement noté ces trois composantes, une fois de plus, qui nous amènent à avoir une foi basée sur la personne de Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc en faisant des recherches, ça nous conduira toujours à la personne de Christ. les éléments de la religion vont nous emmener à avoir une certaine reconnaissance des choses, mais nous avons besoin de cette foi en Jésus. Cette foi basée, centrée sur la personne de Jésus. Il n'y a aucun problème et aucune faille lorsqu'elle est bien centrée sur Jésus. Quand on regarde trop aux gens, peut-être déçus parfois, on aurait pensé, on aurait cru que, et il s'avère que non. C'est sûr, toute proportion gardée, mais basée sur Jésus. On ne peut jamais, mais jamais, se tromper et être déçu. Amen. Alors, j'ai trouvé encore un autre trio. Recevez-le comme une exhortation. C'est dans Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne le relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Nous avons là la clé pour avancer. La clé pour continuer, pour développer, la clé pour entrer dans cette serrure et nous permettre encore de voir là cette exhortation, oui, de continuer dans cette relation avec le Seigneur. Ne perdons pas de vue le zèle, la persévérance, mais encore de ceux qui ne se relâchent pas, mais encore de tenir nos efforts, de persévérer sous le regard de Dieu et de pouvoir imiter ceux qui, par la foi, héritent des promesses. Il y a des choses à vivre qui peuvent être vécues par certains, qui peuvent être oubliées ou passées par d'autres. Mais cependant, nous avons cette pleine espérance, oui, que le Seigneur nous donne de vivre tout son secours et toute sa fidélité. Amen. Si nous parlons de foi, trois choses demeurent, la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu est capable de nous démontrer. Dieu est capable de nous expliquer. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est au-delà de notre portée. On a du mal à imaginer qu'un Dieu créateur a tout orchestré, il a tout fait dans le moindre détail. Et pourtant, c'est vrai, nous réalisons qu'il est capable de nous démontrer. Est capable de venir à notre secours pour nous expliquer les choses, hein, d'un point de vue personnel. Hein, parce que si d'autres l'ont saisi, il vient aussi pour aux plus jeunes, même aux enfants, aux plus âgés. Il est capable à tout moment de nous aider à croire en lui, hein, nous donner les moyens d'avoir un recours et un secours sur sa personne et sur son œuvre. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui cherche, il trouve. Amen. Celui qui dépend de lui ne peut pas être déçu. Hein. Et c'est bon de se dire, c'est une différence entre la foi et la croyance. La croyance, c'est ce qu'on a hérité. C'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire et qu'on ne sait pas pourquoi il faut le faire. La foi, c'est plutôt ce qu'on va découvrir de Christ. Et ce qu'on va découvrir dans la parole, on va vraiment saisir, on va voir la grandeur de Dieu, on va voir des miracles, des signes, c'est vrai. Mais le plus grand et le plus beau, c'est d'avoir nos yeux sur Jésus. Celui qui est capable de faire les miracles. Ce n'est pas les miracles en tant que tels, ce n'est pas les signes en tant que tels, bien qu'ils soient importants. Mais le plus grand, c'est de voir la grandeur de Dieu. Et dans le parcours de nos vies, hein, nous sommes devenus des lettres lues, nous sommes des témoins de la grâce vivante dans nos vies. Hein. Il aurait été certainement inconcevable de penser qu'un jour on soit dans une église, qu'on puisse être un jour dans notre chambre à lire la Bible, à prier le Seigneur, parce que c'était au-delà même de nos pensées. Pourtant, Dieu nous a fait tellement de bien, il a tellement opéré de belles choses que ça a gagné notre confiance, ça a gagné nos cœurs, et ça a gagné notre vie, et ça nous a mobilisés dans un sens, dans une raison d'être, dans une raison qui en vaut la peine. Si on est là, ça en vaut la peine. Parce qu'on sait qu'on gagne du temps, on a cette foi dans le Seigneur. On veut travailler avec foi. On ne veut pas travailler avec habitude. On ne veut pas le faire parce qu'il faut le faire. Parce que, je ne sais, mais on le fait avec confiance dans la grâce de Dieu. Dans l'opération du miracle du Seigneur. On est parfois serré, on peut être angoissé, on peut être perdu, ballotté de toutes parts. Mais se raccrocher au Seigneur dans la foi, c'est ce qui nous tiendra. Hein, c'est ce qui nous tiendra. Alors, le premier pas qu'on commence par la foi, c'est de cheminer avec cette parole qui prend vie, qui est comme une semence qui tombe dans nos cœurs. Elle va se lever, elle va produire un résultat, va produire des choses. Et sans cette parole, on ne pourrait rien faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin des éléments de repère, d'être dans la boucle, là où le Seigneur peut agir, il peut opérer. Si tu n'ouvres pas la Bible, si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas faire son œuvre. Dieu ne peut pas te faire du bien. Et de consulter, je médite sur ta parole. Hein, et merci Seigneur pour une telle parole. Et lorsque tu es authentique dans ta marche, certaines situations viennent pour évaluer ta foi. Ce n'est pas évident ça. On va mettre une note sur votre foi. Oula, pas trop vite. Hein. Et pas si vite, hein, pasteur. Mais nous avons besoin d'évaluer, parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Il le dit dans la parole de Dieu. Il le dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous soyez réprouvés. Vous imaginez la parole là qu'il envoie ? Si nous sommes corrects et si nous sommes dans la parole de Dieu, on peut faire le test de notre foi. Hein ? On peut s'éprouver soi-même. C'est une invitation à tester sa propre foi d'une manière très spécifique. Ce n'est pas un test pour savoir si notre foi est assez forte ou si elle est parfaite ou si nous tiendrons quelque part. C'est plutôt vérifier si elle est authentique et vivante. Parce qu'on parle d'une foi vivante. Hein ? On parle d'une parole vivante. Ce n'est pas une foi qui est éteinte, mais il ranime, il est capable de venir au devant de nos vies. La foi authentique est une foi qui se voit dans notre vie, dans notre personne. C'est tout simplement une foi qui porte du fruit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, etc. Elle est porteuse de fruits. Hein. Et la foi va se concrétiser, va se démontrer, va aussi se manifester par des actions. Parce qu'on pose des actes de foi. Alléluia ! C'est une dépendance de cette foi. Oui, on compte sur le Seigneur, on recherche Dieu. Si je me mets en prière, c'est que je compte sur lui parce que je sais qu'il est vivant et qu'il a la main portée, la main mise, et il a le pouvoir d'intervenir. On obéit à ses commandements, hein. On aime notre prochain, etc. Et puis, en même temps, tester sa propre foi, c'est aussi, elle nous éloigne du péché. On recherche la sainteté. On cherche ce qui va plaire à Dieu. Alors, tester sa foi ou examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi, comme le dit Paul, ça ne signifie pas de la mettre à l'épreuve pour savoir si elle va tenir le coup face aux difficultés, mais plutôt faire l'examen. Du coup, si elle est bien réelle, si elle produit des effets dans notre vie. C'est une invitation, quand il le dit, une invitation à l'honnêteté et puis à la sincérité. Hein, c'est, on a besoin. Et si Paul l'a dit aux Corinthiens, comme je vous disais tout à l'heure, ils étaient, ils exerçaient des dons, ils vivaient de belles choses avec Dieu. Hein, mais c'est important aussi de pouvoir faire le point avec notre foi. On dépend du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'on doit choisir à vivre autrement que ce que nous propose le siècle présent. C'est totalement différent, si on regarde bien. On ne peut pas faire des similitudes, mais on est conscient qu'il y a un renoncement, il y a le fait de tenir un cap. Et puis, il parle de la foi, mais il parle aussi d'espérance. L'espérance, ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. C'est réservé à tous. C'est le cœur même de notre vie, c'est de savoir dans quel sens on va, dans quelle direction on va, jusqu'où on va, et quel est l'objectif de toute chose. Romains 5, 3 nous dit « Bien plus nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hein ? En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour tous les pécheurs au moment fixé. Hein ? Au moment fixé, c'est là où Jésus a accepté que sa vie soit donnée pour nous conduire dans une direction où il met en nous cette espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. La gloire de Jésus, après avoir cru en lui, la Bible dit, on le verra de nos yeux. On pourra le contempler, se retrouver face à lui. Et de pouvoir dire cet élément de foi, cet élément de l'espérance, ont eu ces éléments pour nous connecter, nous rapprocher, nous tenir et nous préparer à la rencontre de celui qui vient bientôt. Amen. À la rencontre de celui qui vient bientôt et au milieu des grandes difficultés de la vie, il y a un mot qui peut nous renforcer, nous libérer et nous aider pour l'avenir, c'est l'espérance. On ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain. On n'en sait rien. Ça regarde bien, on ne sait pas. Même si on sera en bonne santé, si on sera en vie, si tout va aller bien dans un certain sens, etc. Si la famille va tenir, si le couple va tenir, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont là et on se demande si ça va faire face. Ça souffle et nous avons vraiment besoin d'un ancrage fort. Et l'ancrage fort, il est dans cette espérance. Alléluia. Merci Seigneur, parce que oui, il peut y avoir de nombreux désespoirs et on pourrait avoir au milieu de nous des personnes qui nous diraient « Moi, je suis pris par le désespoir. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne sais même pas comment je vais finir, comment je vais survivre, comment je vais réussir à prendre le dessus. » Puis au fond, comme dans notre cœur, il y a comme un réconfort. On est en peine, mais il y a comme une base, un socle qui est là. Il y a une espérance. On n'est pas pris au dépourvu, on n'est pas désemparé totalement. Il y a une part de détresse qui est là, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus fort, qui est comme les rails d'un train. On sait que le Seigneur nous conduit et nous emmènera avec sa fidélité. Il y a peut-être comme un tunnel, un passage à vide, un passage noir, sombre, du désarroi qui t'accapare et qui peut vite te rattraper. Mais l'espérance, c'est la gloire. L'espérance, c'est le Seigneur. L'espérance, c'est d'avoir un bon dépôt dans nos cœurs. Merci Seigneur. Nous avons aussi ce texte dans Romains, il est vraiment essentiel à notre méditation. Je vous cite, c'est Romains 15, hein, et ce chapitre-là, j'en parlerai aussi sur Boker cet après-midi d'une autre manière. Mais tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous a été donnée pour qu'elle puisse convenir aujourd'hui comme étant ce dépôt, ce socle que nous avons besoin. Le socle que nous avons besoin aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, c'est une parole à propos. Alléluia. C'est une parole qui nous a rattrapés, qui a cheminé avec nous de façon à ce que cette parole aujourd'hui convienne. Et il le dit dans ce texte, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, la consolation, que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Si aujourd'hui notre vie était tenue et ne tenait qu'à un fil, eh bien, c'est dire et reconnaître que la parole vivante de Dieu était complètement adaptée, préparée pour justement faire face aujourd'hui. Aujourd'hui, il convient d'être ta force, notre force, pour pouvoir poursuivre demain. Parce que le jour d'aujourd'hui, même si nous sommes passage à vide, nous sommes au bout du bout, eh bien, le Seigneur l'a vu venir. Il le savait. Et Dieu a vraiment fait focus, on pourrait dire, dans l'histoire, dans ton histoire, afin que dans ton histoire vienne à être le moment de la rencontre, du réconfort avec le Seigneur. Oui, on peut avoir vécu sa vie, on peut avoir essayé toutes sortes de choses. Avoir essayé de vivre à sa manière et d'avoir des mobiles qui soient purs, qui soient bons, qui soient assez vérifiables. Mais il convient aujourd'hui, et comme il était dit tout à l'heure, maintenant c'est le jour du salut. C'est-à-dire d'envisager encore et une fois de plus avec lui, mais à partir de là peut-être pour une nouvelle personne, pour quelqu'un qui reviendrait, quelqu'un qui redémarrerait avec le Seigneur, quelque chose d'une manière concrète, ça veut dire que à partir de là, maintenant, aujourd'hui et jusque dans la suite, le Seigneur est capable d'être là. C'est merveilleux. Parce que, vous savez, comme moi, on n'est pas forcément toujours disponible. Disponible pour de la famille, à un moment donné, ça va mal, et d'être là, on peut l'être, mais on ne va peut-être pas forcément l'être à chaque fois et pour toutes les personnes. La différence qu'il y a avec Dieu, c'est qu'il est présent pour toute créature. C'est ça la grâce que nous avons. La grâce que nous avons, c'est de pouvoir vivre cette espérance, une attente sereine et confiante du bien. L'espérance n'est pas passive, mais c'est une attente confiante. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se réfère à cette confiance en parlant de retenir la gloire de notre espérance. Hébreux 3.5, dans la traduction Darby, il dit « Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison comme serviteur, témoignage des choses qui devaient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Amen. » Oui, il y a des vagues, il y a des tempêtes qui sont si fortes qu'on n'a pas vu venir. Où on pensait les surmonter, ça pensait, voilà, une fois de plus, on passerait au travers. Mais il y a des tempêtes où on ne les voit pas venir et puis heureusement qu'il y a une espérance dans nos cœurs. Dieu est fidèle et Dieu est plus fidèle que nous. Ça va si je dis ça? Dieu est plus fidèle que nous. Il nous attend là où parfois on ne l'a même pas attendu. Il était prêt parfois à nous parler alors que nous, on ne voulait rien entendre. Mais il était quand même là chaque matin. Il était là chaque soir. Et peut-être que dans la vie, même si tu voudrais rien entendre, permets-moi de te dire que le Seigneur a quelque chose à te dire. C'est qu'il t'aime. Et il veut le meilleur pour toi. Ce n'est pas le meilleur comme toi, tu le verrais, mais le meilleur comme lui le voit. Parce que nous savons que le Seigneur, venant de lui, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et nous, ce qui nous paraîtrait bon dans le moment, va s'avérer peut-être être un piège pour demain. Alors, on ne sait pas, mais le Seigneur sait bien toutes choses. Alors, cette espérance, c'est aussi comme une encre sûre et solide. Vous connaissez bien ce texte. Pour les connaisseurs de la parole, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où est le Seigneur dans la gloire, là où est entré Jésus pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur et pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est comme si qu'il y avait une encre qui est ancrée dans le ciel. Et nous en avons le cordage pour pouvoir nous raccrocher. Et c'est vrai que cette corde, c'est celle qui nous tient et c'est celle qu'on doit tenir. C'est la miséricorde. Dans nos misères, il y a une corde. Il est capable de nous tenir. Et nous avons besoin de nous raccrocher, voyez-vous. On a besoin dans les tempêtes, dans les remous, dans le courant de la vie, on a besoin d'avoir, oui, un point d'ancrage. Et cet ancrage n'est pas là où il peut y avoir la tempête, où ça souffle, où il y a des vallées de boue qui passent. Les ancrages, ils sont incertains et tout peut vite partir. Mais si on sait que l'ancre, elle est dans le ciel, plutôt on voit l'encre souvent dans la mer, au fond des mers. Mais là, si l'encre elle est dans le ciel, On sait qu'il nous tient et c'est à nous de tenir. On se relève avec cet ancrage fort. On sait où il va. On sait, nous, où on va. Parce qu'on sait que c'est derrière le voile, là où Jésus intercède pour nous. Et dans toutes nos misères, il y a une corde qui nous est donnée. Et on doit continuer à tenir et avancer avec le Seigneur. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, elle est bien. Oui, elle est bien ancrée. Elle est là où la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'éternité de Dieu, elle est là et c'est merveilleux. Hein, c'est beau de réaliser ces choses ensemble ce matin. La foi, l'espérance et l'amour. Faut pas que je l'oublie, lui. Hein, faut pas que je vous dise, désolé, trop tard, j'ai fini, j'ai plus le temps. La plus importante des trois, c'est l'amour. Et il termine comme ça. Parce que nous sommes tous faits pour aimer ou pour être aimés. Hein, et c'est bon de se sentir aimé de l'amour de Dieu. Parce que l'amour durera pour l'éternité. Et vous avez remarqué que celui-là, le dernier, c'est quand même un mot particulier. Parce que l'amour, c'est un des attributs de Dieu. La foi, l'espérance, Dieu n'en a pas besoin. Il sait que nous, on en a besoin. Donc, il nous les donne, il nous les met à disposition. Ce rapport avec lui, on en a besoin. On ne peut pas dire, je vis sans la foi, je vis sans l'espérance, ou sinon, ce n'est pas une vie chrétienne. Et bon nombre vivent leur vie à leur convenance. Ils ont leurs éléments de repère, mais on sait bien que où ça nous mène, où ça va emmener ces gens-là. Et l'amour est un attribut de Dieu, parce que Dieu est amour. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein. Et Jean 3,16 va avec 1 Jean 3,16, vous vous souvenez, j'aime bien ces textes-là, c'est toujours une richesse, une grâce. De se rappeler, Jean 3,16 va avec 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Cet amour peut tellement faire défaut quand on est animé de haine dans notre passé, dans notre manière de vivre. Il y a eu des éléments qui nous ont bloqués. Et cette capacité à aimer nous fait défaut, on aimerait bien, mais elle peut nous faire défaut. Il y a tellement de détresse à cause du manque d'amour. Tôt, parfois dans la vie, jeune, et d'avoir été éduqué sans un manque, sans amour, nous savons que cette révélation de Dieu est nécessaire. Oui, sentir aimé. Au-delà du contexte qui est le mien, de mon passé, de voilà, tout ce qui a pu être ma souffrance. Mais l'amour est ce qui vient nous aider, qui nous donne du contenu, qui nous donne la possibilité de bien vivre avec de bons mobiles et de repartir avec l'aide de Dieu. Et vous savez que l'amour durera pendant l'éternité. Hein ? La foi, l'espérance nous auront été données pour nous emmener à la rencontre de Dieu, mais l'amour durera toujours. L'amour durera toujours et la mort n'est pas plus fort que l'amour. L'amour est plus fort et va vaincre la mort. Notez que cet amour est nécessaire. Ni la foi ni l'espérance ne font partie de la personnalité de Dieu, de son caractère. C'est pas qu'on a à choisir entre la foi ou l'espérance ou l'amour, mais ces éléments vont être des éléments clés. On pourrait dire les deux rails dont on parlait tout à l'heure, c'est la foi et l'espérance qui nous conduisent à l'entrée en gare, et la gare, c'est d'être dans cette révélation de l'amour. Merci Seigneur. Alors je terminerai, et c'est là où vous allez voir si je me prête à l'exercice, étant un des vôtres maintenant, enfin j'espère. Voilà, quand on parle de la croix de Camargue, c'est aussi ça. En un seul dessin, on réunit des symboles, hein, des vertus doctrinales. Et puis, cette croix de Camargue a été créée en quelle année? Bon, moi j'ai fait des recherches, hein, parce que j'aurais pas pu vous le dire, en fait. Déjà, en plus, j'étais pas né, donc voilà. Elle fut créée par l'artiste Hermann Pohl en 1926. Hein. Bon, c'est pas forcément ça le plus important du message, hein, mais elle est devenue le symbole emblématique de Sainte-Marie de la Mer, donc village dont l'église est dédiée aux trois Maries de l'Évangile. Alors, il faut quand même noter, parce que derrière cette histoire-là, il y a eu au cours des siècles les hommes qui ont cherché à codifier les vertus de différentes manières. Hein, on a noté chez les anciens Grecs, ils incluent la totalité des vertus humaines, hein, dans l'arté, comprenaient la force de l'âme, la vigueur morale, la prestance physique, etc. Il y avait ces éléments qui étaient des éléments de repère, hein, comme un petit peu sur les passions, sur les relations, la tempérance, le courage, la sagesse, la justice. Pour les Romains, c'était la vertu qui était la disposition de l'âme tournée vers le bien, l'accomplissement d'actions, de façon d'être. L'homme vertueux romain essayait de faire de son mieux pour être le plus parfait possible. Ça va pas trop mal dans notre société aujourd'hui. On essaye. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des chambres à air, on essaye de faire au mieux, on fait avec, on fait sans, on essaye de s'en sortir comme ça. Et les philosophes de chaque époque ont élaboré leur interprétation des vertus en conséquence, la codification d'une vie, une attitude de l'homme envers le monde. Et nous, pour clore ces ouvertures-là, c'est pour clore, nous avons à imiter les vertus qui nous viennent du Seigneur. L'homme s'invente et se réinvente, à essayer de trouver des éléments de repère. Parce que vous savez, quand tout bouge, tout est bousculé, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Que Dieu nous fortifie, nous bénisse, frères et sœurs. Hein, je partage cela comme j'avais en toute simplicité sur mon cœur. De pouvoir encore nous rappeler, il y a bien des choses qui aujourd'hui font défaut, mais ces trois piliers, les fondements de la vie chrétienne, où trois choses demeurent, comme l'Écriture le dit elle-même, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Hein, que Dieu nous fortifie, nous bénisse et fasse du bien à tout à chacun. Amen. Nous te bénissons, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, nous t'honorons ce matin. Il y a d'abondantes joies devant ta face et nous te bénissons, Seigneur, de nous accorder ce qu'il y a de meilleur. Veuille te plaire au milieu de nous, veuille te plaire en nous. Oui, Seigneur, de nous animer de foi, d'espérance, d'amour, de nous donner encore cette part et ce partage, ce vécu avec toi. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin et nous t'honorons dans le nom merveilleux, puissant et admirable de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.